Chapitre 2 Vescagan 1 Et ce qui se passa fut d'une simplicité redoutable. La hanche malade de Roland le trahit. Il tomba à genoux dans un cri de fureur, de douleur et de consternation mêlés. Puis un corps obscurcit momentanément la lumière du jour, celui de Jake, qui bondit par-dessus le pistolero d'une seule enjambée. Dans la cabine, Otey aboyait furieusement. « Hack ! Hack ! Hack ! Hack ! Jake, non !» hurla Roland. Et il vit tout avec une clarté insupportable. Le garçon attrapa l'écrivain par la taille au moment où le véhicule bleu, ni un camion ni une voiture, mais plutôt un croisement entre les deux, fonçait sur eux dans un vacarme de musique dissonante. Jake fit basculer King sur la gauche, faisant bouclier avec son propre corps. Aussi fut-ce lui que le camion percuta. Derrière le pistolero, à présent à genoux, les mains en sang enterrées dans la poussière, la femme de l'épicerie poussa un hurlement. « Jake, non !» tempêta de nouveau Roland. Mais trop tard. Ce garçon, qu'il considérait comme son fils, disparut sous le véhicule bleu. Le pistolero aperçut une petite main tendue qu'il n'oublierait jamais. Puis elle disparut, elle aussi. King, d'abord heurté par Jack, puis par le poids du camion qui écrasait l'enfant, fut projeté au bord du petit bosquet à 3 mètres du point d'impact. Il atterrit sur le flanc droit et sa tête heurta une pierre, assez fort pour faire voler sa casquette. Puis il roula, tentant peut-être de se remettre debout. Ou peut-être ne tentant rien du tout, car ses yeux étaient 2 billes et en état de choc. Le conducteur braqua son volant au maximum et la camionnette passa à gauche de Roland, le ratant de quelques centimètres à peine, lui envoyant en plein visage un nuage de poussière. Déjà il ralentissait. Peut-être freinait-il à fond maintenant qu'il était trop tard. Il heurta le capot du pick-up par le côté, ce qui acheva de le ralentir, sans cependant faire de gros dégâts. Avant de s'arrêter complètement, il tamponna de nouveau King, cette fois-ci allongé sur le sol. Roland entendit le craquement sec d'un os qui casse, suivi par un cri de douleur de l'écrivain. Et alors Roland fut certain de l'origine de la douleur dans sa hanche. Ça n'avait jamais été de l'arthrite sèche. Il se remit sur ses pieds en titubant, prenant très vaguement conscience de ce que la douleur avait totalement disparu. Il jeta un regard en direction du corps de Stephen King, formant des angles contre nature sous le pneu avant gauche du véhicule bleu, et ne put s'empêcher de penser « Bien fait !» avec une sauvagerie aveugle. « Bien fait ! Si quelqu'un doit mourir ici, que ce soit toi !» Au diable le nombril de Gann, au diable les histoires qui en sortent, au diable la tour, que ce soit toi, pas mon garçon !» Le bafouilleux passa comme une flèche devant Roland, se précipitant auprès de Jake, allongé sur le dos à l'arrière de la camionnette, le pot d'échappement soufflant de la fumée bleue dans ses yeux ouverts. Otey n'hésita pas une seconde, il s'empara du sac d'Oriza, toujours accroché à l'épaule de Jake, et s'en servit pour éloigner le corps du garçon du camion, centimètre après centimètre, soulevant de petits nuages de poussière avec ses petites jambes courtaudes et musclées. Du sang coulait des oreilles de Jake et de la commissure de ses lèvres. Les talons de ses bottillonnes laissèrent un double sillon dans la terre et dans le lit brun d'aiguilles de pin. Roland s'approcha de Jake en vacillant et tomba à genoux à côté de lui. Sa première pensée fut que Jake allait peut-être s'en tirer après tout. Les membres étaient droits, Dieu merci. Et la marque qui lui barrait le nez et une de ses joues imberbes était de l'huile teintée de rouille et non du sang, comme il l'avait d'abord cru. Il y avait bien du sang qui coulait de ses oreilles, oui, et aussi de sa bouche, mais il s'agissait peut-être seulement d'une coupure qu'il se serait faite avec ses dents, ou bien...
« Va voir l'écrivain, » fit Jake.
Il avait la voix calme, pas du tout modifiée par la douleur. On aurait pu croire qu'ils étaient tranquillement assis autour d'un feu de camp, après une journée de marche, à attendre ce qu'Eddie aimait appeler les rations. Ou s'ils se sentaient d'humeur particulièrement joviale, ce qui était souvent le cas, les rations et les buvances.
L'écrivain peut attendre,
répondit sèchement Roland, en pensant intérieurement
« On vient de me donner un miracle. Il est la combinaison de ce corps de garçon pas tout à fait terminé et encore souple, et de cette terre molle qui s'est affaissée sous lui quand le camiobile de cet enfoiré lui a roulé dessus.
« Non, dit Jack, il ne peut pas. »
Et lorsqu'il bougea pour essayer de s'asseoir, sa chemise se tendit un peu plus contre son corps. Et Roland aperçut l'innommable concavité de son torse. Un nouveau flot de sang coula de la bouche de Jack, et lorsqu'il essaya de parler de nouveau, il ne parvint qu'à tousser. Le cœur de Roland se tordit comme un chiffon dans sa poitrine, et il se demanda comment il pouvait continuer de battre devant un spectacle pareil. Othey poussa un gémissement plaintif. Le prénom de Jack mêlé de sanglots, qui donna la chair de poule au pistolero.
N'essaie pas de parler. Il y a peut-être quelque chose de brisé à l'intérieur. Une côte, ou peut-être deux.
Jack tourna la tête. Il cracha un caillot de sang. Une partie se mit à couler comme du jus de tabac chiqué et saisit le poignet de Roland. Son emprise était ferme, ainsi que sa voix. Claire et distincte.
Tout est brisé. Ce corps est en train de mourir, je le sais, je l'ai déjà vécu.
Et ce qu'il dit ensuite, Roland le pensait juste avant qu'il reparte de Karakiri.
Si le cas le veut ainsi, qu'il en soit ainsi. Occupe-toi de l'homme que nous sommes venus sauver.
Il lui fut impossible de nier cette autorité dans la voix et le regard du garçon. C'était joué à présent. Le cas de 19 avait fait son temps. Sauf peut-être pour King, l'homme qu'ils étaient venus sauver. Quelle proportion de leur destin avait dansé au bout de ses doigts voltigeurs, tachés par le tabac? Tout? Une partie seulement? Ceci? Quelle que fût la réponse, Roland aurait pu le tuer à main nue alors qu'il était allongé là, crucifié par la machine qui lui avait roulé dessus, sans se soucier une seconde que King n'ait pas été au volant du camion. S'il avait fait ce que le cas attendait de lui, jamais il ne se serait trouvé là, quand cet imbécile se serait pointé et la poitrine de Jack n'aurait pas cet horrible renfoncement. C'était trop. Sitôt après l'embuscade contre Eddie, et pourtant,
ne bouge pas, dit-il en se relevant. Othey, ne le laisse pas bouger.
Je ne bougerai pas.
Chaque mot d'une clarté et d'une assurance remarquables. Mais à présent, Roland voyait du sang tacher le bas de sa chemise et l'entrejambe de son jean, fleurir là comme des roses rouges. Une fois déjà, il était mort et il était revenu, mais pas de ce monde-ci. Dans ce monde, la mort, c'était toujours pour de bon. Roland se retourna vers l'écrivain. 2. Quand Brian Smith tenta de se dégager de derrière son volant, Irene Tassenbaum le repoussa violemment contre le dossier de son siège. Ses chiens, flairant peut-être l'odeur du sang ou celle d'Othey ou les deux, sautillait en aboyant sauvagement derrière lui. La radio martelait à présent une espèce de morceau hystérique de heavy metal. Elle crut que sa tête allait exploser, non pas à cause du choc de ce qui venait de se passer, mais simplement à cause du vacarme. Elle aperçut le revolver du type sur le tapis de sol et s'en empara. La petite partie de son cerveau encore capable de réfléchir de manière cohérente fut ébahie par le poids de cette chose. Néanmoins, elle le pointa vers l'homme, puis se pencha devant lui et tapa un grand coup sur le bouton de l'autoradio.
Une fois ses fichues guitares hurlantes dégagées, elle entendit de nouveau le chant des oiseaux, ainsi que les aboiements de deux chiens et les hurlements d'un troisième. D'une créature, quoi.
« Reculez votre camion pour dégager le type que vous avez renversé !» ordonna-t-elle.
« Lentement. Et si vous roulez encore une fois sur le gosse, je vous jure que je vous éclate votre cervelle de crétin !»
Brian Smith fixa sur elle des yeux perplexes et injectés de sang. « Quel gosse !» 3.
Lorsque la roue avant de la camionnette se dégagea du corps de l'écrivain, Roland constata que ses jambes étaient tordues vers la droite en un angle anormal et qu'une bosse déformait le côté de son jean. Le fémur, sans doute. Il s'était en outre ouvert le front et tout le côté droit de son visage était baigné de sang. Il avait l'air en pire état que Jake, bien pire. Mais un seul regard suffit au pistolero pour évaluer que, s'il avait le cœur solide et que le choc ne l'avait pas tué, il s'en tirerait probablement. Et il revit Jake saisir l'homme par la taille, le protéger en faisant bouclier, encaissant l'impact de son petit corps.
« Encore vous ?»
dit King à voix basse.
« Vous vous souvenez de moi ?»«
Oui, maintenant. »
King se passa la langue sur les lèvres.
« Soif. »
Roland n'avait rien à boire, et même dans le cas contraire, il n'aurait pas donné à King plus que les quelques gouttes nécessaires pour s'humecter les lèvres. Le liquide pouvait entraîner des vomissements en cas de blessure, et les vomissements pouvaient causer l'étouffement.
« Désolé, »
dit-il seulement.
« Non, vous ne l'êtes pas. »
Il se lécha de nouveau les lèvres.
« Jake ?»
Là-bas, par terre. Vous le connaissez ?
King essaya de sourire.
Je l'ai écrit. Où est celui qui vous accompagnait ? Où est Eddie ?
Mort, fit Roland, dans le devartois.
King fronça les sourcils.
Le devar ? Je ne connais pas.
Non. C'est pour ça qu'on est ici, qu'il fallait qu'on vienne. Un de mes amis est mort, un autre est peut-être mourant, et le tête est brisé. Tout ça parce qu'un homme paresseux et craintif a interrompu le travail auquel le cas le destinait.
Pas de circulation sur la route. Hormis les aboiements des chiens, les hurlements du bafouilleux et le gazouillis des oiseaux, le monde était silencieux. Ils auraient pu être suspendus dans le temps.
Peut-être qu'on l'est vraiment,
se dit Roland. Désormais, il en avait vu assez pour croire que c'était possible. Tout était possible.
J'ai perdu le rayon,
avoua King, allongé sur son lit d'aiguilles de pin au bord du bosquet. La lumière de ce début d'été fusait tout autour de lui en une brume verte et or. Roland passa la main dans le dos de King et l'aida à se redresser. L'écrivain poussa un cri de douleur lorsque la bosse de sa hanche droite roula dans les restes brisés et comprimés de l'os, mais il ne protesta pas. Roland tendit la main en direction du ciel. De gros nuages blancs et joufflus.
Los Angeles,
comme les appelaient les cow-boys de Méris, reposaient immobiles sur fond bleu, sauf ceux juste au-dessus d'eux. Cela traversait le ciel en se hâtant, comme si un fin filet de vent les poussait.
« Là !»
murmura furieusement Roland à l'oreille égratignée et remplie de terre de l'écrivain.
« Juste au-dessus de toi, tout autour de toi, ne le sens-tu pas ?» « Ne le vois-tu pas ?»«
Si, »
fit King.
« Je le vois maintenant. »
« Si fait. Et il a toujours été là. Vous ne l'avez pas perdu, vous avez seulement détourné votre œil de lâche. Mon ami a dû vous sauver pour que vous le voyiez à nouveau. »
De la main gauche, Roland fouilla dans son ceinturon et en sortit une balle.
Au début, ses doigts refusèrent de se livrer à ce bon vieux tour d'agilité. Il tremblait trop fort. Il ne réussit à les immobiliser qu'en se disant que plus l'exercice lui prendrait de temps, plus il risquait d'être interrompu ou de voir mourir Jack pendant qu'il s'occupait de ce misérable rebut de l'humanité. Il leva les yeux et vit la femme qui tenait en respect le conducteur du camion avec son arme. Très bien. Elle était très bien. Pourquoi Gann n'avait-il pas confié l'écriture de cette histoire à quelqu'un comme elle? En tout cas, son instinct de la garder avec eux avait été le bon. Même le raffut infernal des chiens et du bafouilleux s'était calmé. Otte nettoyait l'huile et la terre sur le visage de Jake à coups de langue, pendant que dans la camionnette, mitraille et pistolet engouffraient la viande hachée, cette fois sans intervention intempestive de leur maître. Rallant se retourna vers King, et la balle fit sa vieille danse sur le dos de sa main, entre ses doigts. King sombra presque immédiatement, comme la plupart des gens qui ont déjà été hypnotisés. Il gardait les yeux ouverts, mais il semblait regarder au-delà du pistolero, à travers lui. Le cœur du pistolero lui hurlait d'en finir le plus vite possible, mais sa tête n'était pas dupe. Il ne faut pas bâcler les choses, sauf si tu tiens vraiment à rendre le sacrifice de Jake inutile. La femme le regardait, de même que le conducteur de la camionnette, assis dans l'entrebâillement de la portière. Rallant vit que Cy Tassenbaum se débattait, mais Brian Smith, lui, avait suivi King au pays du sommeil. Ce qui ne surprit pas le pistolero outre mesure. Si cet homme avait la moindre idée de ce qu'il venait de faire, il était naturel qu'il saisisse n'importe quelle occasion de s'en évader, même temporaire. Le pistolero dirigea de nouveau son attention vers cet homme qui devait être son biographe, sans doute. Il utilisa la même procédure que la première fois. Quelques jours auparavant, dans sa vie, plus de 2 décennies plus tôt dans celle de l'écrivain.
« Stephen King, vous me voyez ?»«
Pistolero, je vous vois très bien. »«
Quand m'avez-vous vu pour la dernière fois ?»«
Quand on habitait Bridgeton, quand mon tête était jeune, quand j'apprenais juste à écrire. » Il marqua une pause, puis il donna à Rallant l'indication, probablement la plus significative pour lui, indication différente pour chaque homme. « Quand je buvais encore. »«
Êtes-vous endormi en ce moment ?»«
Profondément. »«
Êtes-vous dans la douleur ?»«
En plein dedans, oui. Je vous remercie. » Le bafou bafouilleux se remit à hurler. Rallant tourna la tête, terrifié à la perspective de ce que ce hurlement pouvait signifier. La femme s'était approchée de Jake et s'agenouillait à ses côtés. Rallant fut soulagé de voir Jake passer le bras autour du cou de la femme et attirer son visage près de sa bouche pour lui parler à l'oreille. S'il avait assez de force pour faire ça...
Arrête! Tu as vu cette difformité sous sa chemise. Tu ne peux pas te permettre de perdre du temps à espérer. »
Il se trouvait confronté à un cruel paradoxe. Parce qu'il aimait Jake, il devait le laisser mourir auprès d'Oté et d'une femme qu'ils avaient rencontrée à peine 1 heure plus tôt. Peu importait. Il avait affaire avec King pour l'instant. Si Jake devait entrer dans la clairière pendant qu'il avait le dos tourné...
« Si le cas en décidait ainsi, ainsi soit-il. »
Rallant convoqua toute sa volonté et sa concentration. Il les condensa en une pointe brûlante, puis les dirigea de nouveau vers l'écrivain.
« Êtes-vous Gann ? »
demanda-t-il brusquement, sans savoir pourquoi cette question lui venait, mais sachant que c'était la bonne question.
« Non, »
répondit immédiatement King. Du sang provenant de sa coupure à la tête lui coula dans la bouche, et il le recracha sans même cligner des yeux.
J'ai cru l'être autrefois, mais c'était l'effet de l'alcool. Et de l'orgueil, je suppose. Aucun écrivain n'est Gann, aucun peintre, aucun sculpteur, aucun compositeur. Nous sommes Kaskagan. pas Kagan, mais Kaskagan. Vous comprenez? Vous intuitez?
Oui, dit Roland. Les prophètes de Gan ou les héros de Gan. L'expression pouvait signifier indifféremment les deux. Et il sut pourquoi il avait posé cette question.
Et ce chant que vous chantez, c'est le Veskagan, n'est-ce pas?
Ah oui, fit King en souriant. Le chant de la tortue. Il est beaucoup trop ravissant pour un type comme moi qui sait à peine siffler un air.
Je m'en moque, dit le pistolero.
Il réfléchit aussi intensément que le lui permettait son esprit embrumé.
Et maintenant vous êtes blessé.
Est-ce que je suis paralysé?
Je ne sais pas. Et je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes en vie et que quand vous pourrez de nouveau écrire, vous chercherez à entendre le chant de la tortue, le Veskagan, comme vous l'avez fait autrefois. Paralysé ou pas. Et cette fois-ci, vous le chanterez jusqu'à la fin de la chanson.
D'accord. Vous et Urskagan, le chant de l'ours,
l'interrompit King.
Puis il secoua la tête, bien que ce fût visiblement douloureux, malgré l'état d'hypnose. Urskagan.
Le cri de l'ours? Le hurlement de l'ours?
Roland ne savait pas lequel. Il lui faudrait espérer que ça n'avait pas d'importance, que ce n'était là que le délire d'un écrivain en train de couper les cheveux en quatre. Une voiture tractant un camping-car passa devant la scène de l'accident sans même ralentir. Puis deux grosses motos filèrent à toute vitesse en sens inverse. Et il vint à Roland une pensée étrangement convaincante. Le temps ne s'était pas arrêté. Mais eux se trouvaient, pour l'instant, dîmes. Et par là, protégés par le rayon, qui ne subissait plus d'assaut destructeur et était donc en mesure de les aider, du moins un peu.